Delveroudi de l'Université d'Athènes pour une communication sur la question de la langue en Grèce. Et avec cette entrée brutale qui est nommée l'ennemi. Voilà. À vous la parole.
Merci, Monsieur le Président. Nous allons donc passer à une langue qui est une langue d'un empire, l'Empire ottoman, et on va voir sa constitution comme langue nationale qui se fait à travers une relation assez complexe, pour reprendre le sujet de tout à l'heure, avec une langue d'empire, une langue impériale, le grec ancien. Alors, mon sujet traite d'un aspect particulier de la question de la langue grecque, à savoir celle des termes employés pour désigner les différentes variétés linguistiques. Parmi ces termes, certains sont ou au moins semblent neutres, langue commune, écrite, parlée, alors que d'autres, loin d'être juste des mots innocents, sont des termes péjoratifs, langue vulgaire, ou mélioratifs, katharevous, langue qui tend vers la pureté. Ces termes, en tant que représentation concrète et concise des intentions des locuteurs, fournissent un outil important pour l'analyse et l'interprétation des attitudes et des sentiments à l'égard des questions linguistiques. Nous allons donc procéder à un examen des termes désignant des variétés de langue, en insistant plus particulièrement sur le terme helléniki glossa, langue hellénique, juste après une présentation du mythe fondateur de la langue grecque moderne. Chaque langue a son propre mythe fondateur. Il s'agit de mythes linguistiques qui traversent l'histoire externe des langues, participent activement à leur constitution en tant que langue nationale et les accompagnent dans leur trajet à travers le temps. Pour ce qui est du grec moderne, on peut avancer que son mythe fondateur est l'unité dans le temps. Ce mythe, selon nous, connaît deux versions, l'une forte, l'autre faible. Dans la version forte, on entend l'unité comme identité. Le grec moderne et le grec ancien sont la même langue, ou au moins devraient l'être, puisque depuis l'Antiquité, le grec est resté inaltéré dans son essence. La version faible, celle qui a finalement prévalu, entend l'unité comme continuité. Depuis l'Antiquité, le grec est une et la même langue, avec des étapes différentes sur l'axe de la diachronie et une variation diversité dialectale sur l'axe de la synchronie. Il faudra dire que les savants grecs adoptent une attitude diamétralement opposée envers les origines de leur langue par rapport à celles des autres savants européens. Alors que dans l'Europe occidentale, lors de la consécration des langues modernes, l'attitude prépondérante était celle de l'émancipation par rapport au latin, en Grèce, l'attitude dominante était l'adulation du passé. Quelle est la raison de cette attitude d'adulation qui a abouti à la vision unifiante dont on vient de parler de la langue ? Il est généralement admis que la nouvelle nation émergente de l'Empire ottoman vers la fin du XVIIIe siècle mise sur la Grèce antique afin d'attirer les regards sympathiques des pays éclairés de l'Europe. Pour les savants grecs, démontrer la continuité ou même l'identité linguistique est une tâche importante pour revaloriser aux yeux des Européens de l'Europe ce peuple plongé dans l'ignorance. Or, les voyageurs étrangers qui arrivent sur le sol grec, surtout après la prise de Constantinople, constatent que la langue parlée au pays est très éloignée du grec classique qu'ils connaissent et la considèrent comme une langue barbare. Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, les savants grecs s'efforcent donc de donner une réponse claire aux détracteurs. Ils imputent donc les barbarismes à la soumission séculaire des Grecs au joug ottoman, tout en forgeant des théories sur le processus de la barbarisation et en suggérant des remèdes au problème. Nous n'allons pas présenter ici tout l'arsenal développé par les érudits dans leur commun effort pour persuader l'Europe que leurs compatriotes sont bel et bien les descendants des Grecs anciens. Contentons-nous à en esquisser les tendances principales. Certains, dits archaïsants, comme Doukas, Komitas, Soutsos, concèdent à leurs détracteurs le bien fondé de leurs observations sur l'état détérioré de la langue parlée. Ils suggèrent comme remède l'adoption et la diffusion de la langue de la tradition écrite, qui est restée à travers les siècles très proche du grec classique. À leur avis, l'état lamentable de la langue actuelle la rend totalement inapte à servir d'instrument de communication entre savants ou d'instruction de la nation. D'autres savants, comme Kodrikas, soutiennent que les différences entre le grec ancien et le grec moderne ne concernent que les détails, alors que l'essence de la langue ou son génie est restée inaltérable à travers le temps. Nous avons ici les germes du mythe de l'unité dans sa version forte. D'autres encore, comme Katartis, Philippides, Constantas ou Christopoulos, choisissent de défendre la langue moderne. Pour répondre aux archaïsans, ils font un parallèle avec les nations de l'Europe qui ont substitué les langues modernes au latin et avec les Grecs aussi de l'époque classique qui ont choisi la langue de leur époque et non pas celle d'Homère. Ils considèrent le grec moderne comme un dialecte de la langue grecque, expliquant la variation diachronique par la variation diatopique. Ils imputent la pauvreté de la langue au fait qu'elle n'est pas encore utilisée dans des ouvrages savants. Il n'y a pas eu de Dante encore en grec moderne. Ils plaident alors pour son emploi à l'écrit afin qu'elle devienne progressivement une langue élaborée pouvant assumer toutes les fonctions requises par un peuple moderne. D'autres enfin, comme Korais, tout en défendant la langue moderne, mettent en place un programme de correction et d'embellissement pour l'épurer des éléments étrangers, turcs pour l'essentiel, et l'enrichir en ayant recours au fond classique de la langue. Nous voyons dans toutes ces conceptions le poids important de la langue classique. C'est un point commun dans toutes les trois conceptions et approches du problème. Alors, cela peut paraître paradoxal, mais à ce stade initial de la formation d'une conscience linguistique nationale, c'est chez les défenseurs de la langue moderne, et non pas chez les archaïsans, que nous décelons une vision unifiante de la langue. L'attitude des archaïsans peut être qualifiée de scissionniste, puisque pour eux, il y avait un hiatus entre la langue vulgaire, d'une part, évaluée négativement, et la langue classique, évaluée positivement. Pour les défenseurs de la langue moderne, en revanche, le grec moderne était une nouvelle étape de la langue grecque ou un dialecte de la langue grecque qui, malgré les différences, gardait les qualités essentielles du grec ancien. Les deux variétés sont évaluées donc positivement. Selon nous donc, le mythe de l'unité de la langue grecque, qui est profondément enraciné dans l'imaginaire linguistique des locuteurs grecs contemporains, et qui tout au long du XIXe siècle a été cultivé et entretenu par les défenseurs de la katharevousa, la langue qui tend vers la pureté, prend ses racines à la fin du XVIIIe siècle dans les idées et les discours des défenseurs de la langue parlée. L'examen auquel nous allons nous livrer maintenant, de certains termes employés ou introduits pour désigner des variétés de langues, est révélateur de cette conception unifiante qui caractérise les défenseurs du grec moderne. Alors, la conception de la relation entre le grec ancien et le grec moderne, point central pour la constitution de l'idéologie linguistique et des mythologies afférentes, est reflétée au terme employé pour les désigner. À la fin du XVIIIe siècle, il y a une nette répartition des termes désignant le grec ancien d'une part et le grec moderne d'autre part. La langue classique, langue littéraire, est de grand prestige, est désignée par un nombre restreint de termes. Ainsi, deux adjectifs sont employés, helléniki et attiki, désignant l'un la totalité de la langue et l'autre son dialecte le plus illustre, qui sont concurrencés par deux autres adjectifs au sémantisme chronologique, paléa et archéa, et d'un adjectif relationnel, prochroniki, ancestral. L'homogénéité des désignations de la langue classique par ces cinq adjectifs est également reflétée par le consensus qui existe entre les écrivains, qui, grosso modo, emploient tous les mêmes termes indépendamment de leurs idées linguistiques. En contraste avec les désignations de la langue classique, l'embarras règne dans la terminologie relative à la langue moderne et s'observe surtout chez les défenseurs de cette langue. Les adjectifs les plus fréquemment employés par eux sont kini, commune, langue commune, roméique, grec, grekiki, idiome parlé, naturelle, langue maternelle, actuelle et holodorienne. En revanche, pour ces détracteurs, un seul adjectif, hivea, vulgaire, suffit pour désigner une variété privée de droits de cité. D'après ce qui vient d'être dit, il est certain que les savants de l'époque perçoivent ces deux variétés comme étant bien distinctes, puisque tous emploient des termes distincts pour les désigner. Pour les archaïsans, qui ont, comme nous le proposons, une vision scissionniste, la langue vulgaire est une langue à rejeter, évidemment différente de la langue classique. Pas question pour eux d'essayer d'établir une relation entre les deux variétés. Les choses sont un peu plus compliquées pour les défenseurs de la langue moderne. La conception qu'ils se font de la relation entre les deux variétés n'est pas claire, et souvent dans leurs écrits, on retrouve des attitudes contradictoires. Par exemple, Kadardzis adopte une attitude scissionniste lorsqu'il soutient que le grec moderne, le roméique, est une langue différente du grec ancien, comme les langues romanes par rapport au latin, mais il adopte une attitude unifiante, et même dans sa version forte, lorsqu'il soutient que les qualités essentielles des deux variétés sont les mêmes, ou que le grec moderne est le sixième dialecte du grec ancien. Alors, un des termes révélateurs des conceptions et des idéologies, et pas seulement linguistiques, est l'adjectif helléniki, hellénique. Cet adjectif, initialement associé exclusivement au grec ancien, a fini par désigner également la langue moderne. De nos jours, la langue grecque est appelée hellénica. Et quand on se réfère à la langue classique, on dit archéa, hellénica, grec ancien, ou simplement tout court archéa. Mais au XVIIIe siècle, même ceux qui défendaient la langue moderne, reconnaissant l'état détérioré où se trouvait la langue parlée, n'osaient pas lui attribuer le même nom par respect et par vénération à la langue classique. Ainsi, Kadardzis met en contraste la langue hellénique et la langue roméique, Koraïs la langue hellénique et la langue grecque, ou commune, alors que Christopoulos introduit le terme holodorienne pour le grec moderne. Quant aux archaïsans, comme nous venons de le voir, ils se contentent, eux, du terme vulgaire. La première occurrence du terme helléniki désignant la langue moderne est attestée à notre connaissance dans l'ouvrage « Géographie moderne » de Philippides et Constandas, paru en 1791. En y étudiant la localisation des différentes langues de l'Europe, les auteurs mentionnent que la langue hellénique, helléniki, qui est corrompue, est en usage dans la partie sud de l'Europe. avec toutes les réserves qui doivent être prises lorsqu'il est question de localiser les premières occurrences d'un terme, l'emploi du terme Helléniki sera repris en 1801 par un des auteurs de la géographie, Daniil Filippidis, et ce, dans deux de ses textes. Dans une lettre adressée à Razis, dans laquelle il annonce une traduction Istaomilitika Hellenika, en hellénique parlé, et dans la traduction en grec moderne de la logique de Condillac. Là, le terme est attesté dans la préface et dans la page du titre. Σύγγραμμα μεταφραστέν εις την ομιλημένη ελληνική διάλεκτο, en langue parlée hellénique. Nous croyons que l'emploi du terme hellénique par Filippidis est un geste innovateur et même provocateur pour l'époque. Il constitue un acte tout à fait conscient et dicté par ses idées linguistiques. Filippidis, défenseur de la langue moderne et élève de Katharzis, soutient, comme son maître, que le grec moderne est un des dialectes du grec classique. Mais Filippidis avance encore d'un pas par rapport à son maître. Si les dialectes classiques sont désignés par l'adjectif générique helléniki, la langue moderne, étant un de ces dialectes, devra aussi être désignée par ce terme helléniki. Si la conception méronymique de la langue moderne en tant que dialecte du grec ancien est un argument pour sa valorisation auprès des Européens, l'emploi du terme helléniki est un pas décisif qui, concrétisant cette conception, constitue la réponse la plus concise et la plus claire à tous les détracteurs du grec moderne. Après 1801, les occurrences du terme helléniki vont se densifier. En parcourant les titres d'ouvrages publiés, nous avons localisé deux occurrences en 1803, deux autres en 1805, une occurrence en 1806 et trois occurrences en 1807, ainsi de suite. Cependant, cet emploi du terme est encore loin d'être accepté à l'unanimité. Ainsi, par exemple, en 1804, le co-auteur de la géographie, Constant Das, ne fait pas le même choix terminologique dans une traduction dont la page de titre mentionne que l'ouvrage est traduit « istinimeteran dialecton » dans notre dialecte. Les premiers ouvrages de Koraïs témoignent également en faveur de l'hésitation des savants de l'époque à accepter l'adjectif helléniki, défenseur de la langue moderne, mais plus modéré que Christopoulos et Constantas. Koraïs est dans ses premiers écrits très prudent quant à l'application de l'adjectif helléniki à la langue moderne, lui préférant nettement les termes grekiki ou kini, commune. Ce qui est certain, c'est que l'emploi de l'adjectif helléniki, bien avant de devenir le terme unique désignant le grec moderne, a soulevé des protestations considérables dans le camp des archaïsans, comme en témoigne Psalides en 1812. Le pire, c'est qu'il me traite non seulement d'ignorant, mais aussi d'effronté, en m'entendant dire que la langue que nous parlons actuellement est hellénique. Dans la phase suivante de la question de la langue, qui se situera dans le nouvel État grec, quelques décennies après sa création, en 1830, les enjeux linguistiques sont transformés. Il ne s'agit plus de faire un choix entre la langue ancienne et la langue moderne, mais au sein de cette dernière, entre sa variété parlée, la démotique, et sa variété savante, la katharevousa, un compromis entre le grec moderne et le grec ancien. Les savants ainsi que les responsables politiques ont bien compris que les aspirations des archaïsans étaient totalement utopiques. Ils se sont donc tournés vers cette variété mixte qu'auparavant personne ne défendait puisqu'elle enfreignait tout le principe de la pureté des formes. Dans cette nouvelle phase de discussion linguistique, le terme helléniki, bien établi entre-temps pour désigner la langue moderne, continue à susciter des polémiques. Tant les défenseurs de la Katharevous que ceux de la Dimotiki revendiquent cette désignation exclusivement pour leur variété. Ainsi, lorsque la traduction du Nouveau Testament en langue démotique provoque les manifestations violentes connues sous le nom d'Evangelica en 1902, le sujet arrive à l'Assemblée nationale. Deux députés, militant contre l'enseignement du Nouveau Testament en traduction, soutiendront que la seule langue hellénique est le grec ancien. Donc, la traduction de l'Évangile en langue vulgaire, langue qui est rien moins qu'hellénique, notre langue ancienne, qui est la seule hellénique. Et en langue mixo-barbare et vulgaire, qu'ils veulent arbitrairement et effrontément appeler hellénique. Après un siècle, c'est-à-dire de débats sur la langue, la société grecque semble être revenue à la case départ, à l'époque où le terme helléniki était réservé à la seule langue classique. Mais cette fois-ci, les défenseurs de la langue parlée n'ont pas d'hésitation quant à la pertinence du terme. Et voici leur réponse. Sous la plume de Philindes, retournant les accusations à ses adversaires. Et nous vous disons que la seule chose à laquelle nous pensons sans cesse, c'est que la Katharevous n'est pas une langue hellénique, parce qu'elle détruit les organes vocaux hélènes. Est-ce que donc nous voulons détruire ou bien promouvoir la langue hellénique, notre langue vivante, la langue roméique ? Que nous appelons évidemment roméique, non pas pour faire s'aborder le nom hellénique, mais parce que c'est comme cela que l'appelle le peuple qui la parle par égard à son histoire. Et pour qui entend ce texte, il devient plus qu'évident que les Grecs sont encore au tout début du XXe siècle, loin d'avoir résolu la question de la langue, et encore plus loin d'avoir tranché la question du nom à donner à leur langue. Je vous remercie.